Chers auditeurs de Radio Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Jean Molinet pour un essai qui s'appelle « Peut-on bâtir une démocratie ?» C'est publié
en auto-édition.
En auto-édition. Oui, mais il faut que vous nous donniez une adresse pour l'acquérir.
Alors, oui, éventuellement, il faudra que je vous donne un lien. C'est le site thebookedition.com.
The Book Edition,
The en Book un seul Edition. Mot, qui est une société française,
oui,
comme
oui,
son nom
ne
l'indique
oui.
pas,
oui.
qui est à Lille. Donc, thebookedition.com.
Oui.
Et c'est dans la catégorie essai, essai politique.
Voilà. Alors, vous êtes c'est votre premier livre, vous n'êtes pas un habitué de cet exercice.
Absolument pas.
Vous êtes pas ce qu'on appelle une bête à concours, vous êtes un autodidacte, vous avez appris beaucoup de choses par vous-même. Ce qui vous donne une originalité et une... presque une crudité. Vous dites les choses sans tourner votre langue autour du petit doigt, et ce qui est bien agréable. Et par ailleurs, vous avez été élevé sans télévision et vous vivez sans télévision. Juste quelques fois, Christian Combaz, TV Liberté, visiblement. Mais vous, alors, ça vous donne évidemment une indépendance totale par rapport à la propagande. Vous êtes...
Oui, complètement. Alors, il n'y a jamais eu de télévision chez mes parents. Aujourd'hui, il y en a une, mais il n'y a plus d'enfants à la maison. Mmh. Il est vrai aussi que le contexte familial ne permettait pas d'avoir une télévision. Je suis l'aîné d'une fratrie assez nombreuse, on est 9.
Oui, ça c'est fantastique.
Ce qui fait un nombre de neveux et nièces assez conséquent. On en est à 30 pour l'instant et c'est probablement pas fini.
Non.
Donc, si vous voulez, bon...
Une famille du Nord, une famille...
Du Sud-Ouest.
Du Sud-Ouest, ouais.
Alors, mes parents sont nés à Paris tous les deux, mais ils se sont très rapidement installés dans Dordogne, dans le sud-ouest de la Dordogne, quand ils étaient jeunes mariés. On a vécu pendant 5 ans dans les Landes, où à l'époque, mon père avait pris la direction d'un domaine départemental. Puis on est revenu finalement...
Qu'est-ce que c'est un domaine
Alors, c'est un domaine d'État. Il y avait une propriété de 500 hectares qui était un domaine d'État, enfin, qui a été géré par l'État. Mon père avait pris la direction.
Un domaine agricole ?
Un domaine agricole, il y avait essentiellement...
Et pourquoi l'État des domaines agricoles ?
Bah, alors c'était un arrangement, mais alors je vous le dirai ça de mémoire, parce que j'étais enfant, moi j'avais, quand oui. on a déménagé là, je devais avoir 9 ans. L'État a un certain nombre de domaines qui avaient été confiés par le clergé local, je ne sais plus qui c'était, et que l'État avait en charge de gérer. Donc il y avait 500 hectares, il y avait une production d'Armagnac.
Ouais, enfin c'était des domaines ecclésiastiques.
À l'origine, oui.
Oui,
mais c'est l'État qui en avait la gestion. Alors, il y avait un truc amusant, c'est que
oui, enfin, c'était, l'État c'est ce qu'on appelle devait... une captation. Hein.
Oui, mais l'État devait le restituer si ça redevenait bénéficiaire. Ah. Et ça, mon père l'a découvert parce qu'en fait, quand il est arrivé, il a repris en main un certain nombre de choses et ça commençait à redevenir bénéficiaire parce qu'il a fait le ménage dans un certain nombre de choses.
Oui.
Et puis, il s'est brouillé avec l'État parce qu'il a dit...
Déjà, lui
à
aussi.
À l'époque, il y a eu la loi de Simone Veil... Oui. Légalisant l'avortement, il a dit « Moi, je suis désolé, je ne travaillerai pas pour l'État si l'État valide ça.
Ah, » oui.
Et il a démissionné.
Oh,
alors,
il a
reçu d'un côté des lettres d'insultes, les pires, etc., d'espèces d'inconscients. On était déjà 6 à l'époque, donc il y a des gens qui se sont dit « Mais comment il va faire ?» On passait assez complètement, alors qu'il a un poste de quasiment haut fonctionnaire. Ma mère étant secrétaire sur le truc, ça faisait les deux salaires qui rentraient.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on vivait bien à l'époque, hein. On partait au ski l'hiver, l'été on allait au ski à la montagne, on allait, bon c'était sympa. Mais bon, il y avait des valeurs morales qui étaient, donc j'ai grandi là-dedans aussi, qui primaient, absolument. Et puis voilà, et puis il y avait un élevage de laitier, il y avait un élevage laitier, il y avait un peu de, bon le vin pas vraiment, parce qu'en fait c'était de l'armagnac hein, qui était produit, et puis il y avait un peu de mouton, et voilà. Et on n'avait donc pas de télévision pour en revenir au sujet de débat. Donc, si vous voulez, on avait la radio, on écoutait France Inter. Bon, c'était mon père, c'était sa radio. On écoutait, si vous voulez, pas les radios périphériques qui étaient hachées de publicité régulièrement. Donc, j'ai grandi sans ça. Et puis plus tard, moi, j'ai eu 2 télévisions dans ma vie. J'ai vécu au Québec pendant un certain temps. Et puis 2 fois, il est arrivé qu'on me donne quelqu'un qui me donne un petit téléviseur 12 pouces noir et blanc. Que je gardais 15 jours, j'y jetais un coup d'œil de temps en temps et ça finissait dans la benne parce qu'en fait j'avais autre chose à faire.
Bon, vous aurez compris, chers auditeurs, que l'auteur de « Peut-on bâtir une démocratie ?» est quelqu'un de tout à fait à part et c'est ça qui fait sa force à mon avis.
Ben, oui, voilà. Et puis j'avais alors le fait d'être l'aîné, a fait que mon père a pris certaines dispositions parce que j'avais devoir d'exemple. Et c'est très important. Et ça m'est resté. Alors bon, je l'ai quelquefois mesuré de façon un peu vigoureuse, et je ne l'en blâmerai pas pour ça aujourd'hui. Hein. Mais bon, voilà, c'était au sein, enfin dans la vie familiale, mais après je l'appliquais dans la vie de tous les jours, si vous voulez. C'est que je me dis, bon, c'est très bien de râler contre les choses, mais enfin, il faudrait peut-être montrer l'exemple d'abord. On ne change pas les gens. On ne peut pas changer quelqu'un. On ne peut que l'amener à ce que de sa propre initiative, il se dise, ben, c'est peut-être pas totalement idiot ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et il doit le faire de sa propre initiative, parce qu'on ne peut pas, quelqu'un qui change de façon contrariée, tôt ou tard, il va en revenir. Vous savez ce qu'on dit, chasser le naturel, il revient en galop.
Ouais.
C'est ça qui va se passer si on essaye de forcer les gens. Donc c'est d'essayer de montrer un exemple, d'ouvrir les yeux. Et puis il y a une autre chose que j'ai faite, si vous voulez, la manière. Bon, moi, comme vous avez dit, je ne suis pas un auteur, ce n'est pas du tout mon métier, c'est un exercice qui était pour moi pas facile. J'ai vu ces derniers temps des livres qui sont sortis, qui ont dû sortir relativement vite, puisqu'ils parlent déjà des gilets jaunes dont je ne parle pas. Moi, j'ai commencé à écrire ce truc-là il y a mois de mai-juin l'année dernière.
Cela dit, les gilets jaunes sont en arrière-plan dans tout votre livre. On y pense.
En fait, oui.
Vous avez dit le mal, l'inconfort des gilets jaunes avant même qu'ils ne s'expriment.
C'est marrant parce qu'en fait, mon père, à qui j'avais proposé de relire, m'a dit à un moment donné, mais il dit, c'est très prémonitoire ton truc.
Ah, oui.
Il m'a dit ça au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Ouais. Et de fait, je lui dis, bah oui, je ne l'ai pas fait exprès, mais je me suis aperçu qu'en fait, ça cadrait totalement avec le système. Alors, ça va un peu au-delà de l'idée d'Étienne Chouard du référendum d'initiative citoyenne, même si on n'en est pas très très loin. Puisque moi, je propose un système qui est beaucoup plus antique. En fait, comme je dis aussi à un moment donné, je n'invente rien. Je reprends une idée qui a 2500 ans, qui est l'agora athénienne.
Oui.
Et je me dis, bon, on n'est pas obligé de tout reprendre. Hein. On n'a pas d'esclaves, on est interdit par les femmes, etc. Pour des raisons qui sont aujourd'hui, je dirais, qui devraient être évidentes. Sur cette discrimination, par exemple, homme-femme, moi, j'ai été inspiré par des choses qui peuvent vous paraître bizarres. Le film Avatar pose une question... puisque vous avez des individus qui se transfèrent, enfin qui transfèrent leur conscience de leur corps humain au corps des Na'vi, qui sont les autochtones humanoïdes de la planète.
C'est des robots.
Non, c'est des aliens, enfin qui habitent sur la planète qui s'appelle Pandora,
oui.
Qui sont des Na'vi. Et les humains qui vont exploiter une mine d'un métal qui s'appelle l'unobtenium, qu'on ne peut pas obtenir, ce qui est assez drôle, qui veulent chasser une tribu de Na'vi qui habite là. Et en fait, pour arriver à discuter avec eux, le problème, c'est que l'atmosphère de la planète est toxique. Et ils ont trouvé une manière de transférer la conscience d'un individu dans un corps qui a été monté artificiellement, qui était une espèce de clone. Alors, l'histoire en soi, elle est plausible, pas plausible, je dirais, ça n'a pas vraiment d'importance. La question que j'ai vue, par contre, c'est que c'est ce transfert de conscience. Il se transfère d'un corps d'un homme dans un mâle Na'vi. Mais je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui empêcherait qu'il se transfère dans un corps d'une femme Na'vi? Et je me suis dit, si vous faites abstraction totalement de l'aspect physiologique de la chose, qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme? Et moi, je suis désolé, je n'ai pas de réponse à ça. Il y a, si vous y rajoutez l'aspect biologique, l'aspect physiologique, c'est vrai qu'une femme ne va pas avoir les mêmes responsabilités, elle va être une mère, donc elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'un homme ne verra absolument pas. Et inversement, il y aura d'autres responsabilités. Mais si vous faites abstraction de ça, finalement, qu'est-ce qui empêche que l'un ou l'autre soit plus intelligent ou moins intelligent? Rien.
Ah, rien, non, oui, ça c'est.
Donc si vous voulez, bon, cet aspect de dire, bah non, les femmes ne peuvent pas participer, pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, les esclaves. Officiellement, il n'y en a plus, même si ça pourrait être très discutable. On a un esclavage moderne aujourd'hui, un espèce d'asservissement.
Et puis, dans tout le monde musulman, l'esclavage existe encore.
Oui, absolument. Bah, je lisais hier un petit article sur un type qui a été arrêté parce qu'en fait, il cantonnait sa femme et les enfants à la maison. Et elle n'avait absolument pas le droit de sortir. Elle a voulu, en fait, ouvrir un compte en banque. Mais il l'a menacée au cutter, au couteau, enfin bon, voilà, il la voyait, elle reste à la maison, elle dort, elle mange, elle garde des enfants, point. C'est complètement invraisemblable. Ça n'a pas de sens.
C'est éternel comme système.
Oui, mais bon, je trouve que ça relève un petit peu du mal, parce qu'il faut être vraiment pauvre d'esprit pour déjà ne pas comprendre qu'il y a une espèce de complémentarité. Il doit y avoir une complémentarité, on n'élève pas des enfants avec une bonne à la maison. À qui on fait les enfants, et puis elle est là, juste là, comme non, mais ça c'est pas constructif.
Mais ça, c'est le grand apport du christianisme.
Oui, on peut dire ça.
C'est Sainte-Anne qui apprend à lire à la Vierge Marie.
Oui, vous en savez probablement plus que moi là-dessus.
Non, mais vous savez, toutes les statues de Sainte-Anne montrent qu'elle a un livre sur les mains.
Ah,
la petite Sainte-Anne et la petite Vierge est à côté d'elle.
D'accord.
Et Sainte-Anne lui apprend à lire.
Mais j'avais déjà lu que la Vierge Marie avait été très érudite. Ça ne transparaît pas vraiment dans les évangiles ou dans les écritures, mais en fait, j'avais déjà entendu dire qu'elle était une femme très, très instruite et très érudite.
Alors, vous vous êtes demandé si l'on pouvait bâtir une démocratie. Ça veut dire que donc pour vous, nous ne sommes pas en démocratie.
Non, et en fait, nous ne l'avons jamais été. Mais pour ça, il faut peut-être donner leur sens aux mots. Démocratie, comme je l'explique, je redonne les définitions d'un certain mot en m'appuyant simplement sur un dictionnaire comme n'importe qui peut avoir un Larousse chez soi. Et ça vient du grec, démocratia, qui est lui-même un mot composé, démos kratos,
le pouvoir du peuple.
On ne peut pas faire de démocratie sans le démos. Donc il faut que le peuple intervienne. Ça me paraît être la logique la plus élémentaire qui soit.
Mais j'ai envie de vous dire, le peuple est extrêmement contesté aujourd'hui. Quant au pouvoir, il est occulte.
Oui, mais voilà, le pouvoir de qui ?
L'autorité et le pouvoir est aussi déjà une notion discréditée, puisque dès que quelqu'un a du pouvoir, on dit que c'est un fasciste. Donc les deux mots sont...
si on reprend les mots dans leur sens, je serais tenté de vous dire que la démocratie est quelque chose de très anarchiste.
Pardon ?
Je serais tenté de dire que la démocratie, si on prend les mots dans leur sens, a quelque chose de très anarchiste. C'est-à-dire que le pouvoir institutionnel de l'État, du gouvernement, ne devrait s'exercer que sur leur domaine d'action, c'est-à-dire le chef de l'État gouverne l'État.
Oui.
Le président de la République est le chef de l'État. Il n'est pas le chef de la France et encore moins le chef des Français.
Oui.
Ce n'est pas le chef de village, on n'est plus en Gaule là.
Oui.
Donc si vous voulez qu'un Premier ministre exerce son pouvoir sur les ministères, sur ses ministres, l'exécutif est censé mettre en application ce qu'a décidé le législatif, et pas l'inverse, comme on voit aujourd'hui.
Oui, mais alors là, le pouvoir législatif, vous allez nous en parler. Il se trouve que le 15 mars, il s'est passé quelque chose d'étonnant. À 6h15 du matin... il y a eu l'Assemblée nationale a voté d'un seul coup la privatisation des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et d'Engie, la suppression des tarifs réglementés du gaz et la modification des seuils sociaux, loi Pacte. Donc, il y avait combien pour ce vote majeur? Ils étaient 45 sur 577 députés, soit 7% des adjectifs, 532 absents. Il aura donc suffi de 27 députés en marche pour valider la vente des bijoux de famille.
Ce qui est un scandale absolu. C'est véritablement un scandale. L'Assemblée nationale est une assemblée de godillots qui sont des traîtres à la nation. L'opposition est une opposition de carnaval. Je suis désolé, mais quand j'entends M. Quatrenin qui hurle contre cette privatisation, ben oui, mais l'opposition, il y en a quand même un certain nombre dans cette assemblée. Ils étaient où ?
De toute façon, ils ne pouvaient pas enrayer le truc, puisque
s'il n'y a eu que 27...
En marche, mais les députés En Marche sont plus nombreux.
Oui, non, mais à ce moment-là, le problème, c'est que s'ils avaient été un tout petit peu plus, quelques-uns de plus, vu le nombre d'En Marche qu'il y avait, qui ont réussi à faire passer le truc, s'il aurait fallu pas beaucoup de gens de l'opposition en plus pour faire capoter le truc. Et c'est pour ça que je dis que c'est une opposition de carnaval. De temps en temps, ils votent contre un truc, mais ils sont juste pas assez comme par hasard. Moi, j'y crois pas à leurs histoires de... C'est des grandes gueules, hein. Et puis, moi, il y a une chose qui me fatigue dans cette Assemblée nationale, une chose que les gens ne remarquent peut-être pas. Vous regardez l'hémicycle et vous regardez comment est-ce qu'ils sont répartis. Vous avez l'extrême gauche, la gauche, le modem, la droite, l'extrême droite. Et ça a l'air de déranger personne. Ben, ça devrait. Parce qu'en fait, le député est le représentant de la nation, le représentant des citoyens. Il n'est pas le représentant d'un parti, il est encore moins le représentant d'un gouvernement. Et quand vous entendez des députés En Marche qui disent « on est là pour essayer de mettre en application la politique de la République En Marche », je suis désolé, non. C'est pas leur rôle.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ils ne dépendent pas, en fait, de celui qui est en haut. Ils devraient dépendre de ceux qui les ont élus. Vous avez tout à fait raison.
Et rendre des comptes à ceux qui les ont élus. Le problème, c'est qu'ils rendent des comptes à ceux qui les ont fait élire et qui ont financé leur campagne, leur campagne électorale. Ce qui est un scandale absolu. C'est le règne du pognon. Et avec les politiques néolibérales de profit, de start-up nation à la Macron, qui sont des choses qui écartent totalement l'être humain. Et le citoyen, a fortiori, quand il nous parle, il se gargarise de mots « démocratie », c'est de la langue de bois permanente, mais il n'en pense pas un mot.
Vous avez refait la fable du corbeau et du renard, qui s'appelle « L'électeur et le candidat ». Maître électeur, sur une urne perchée, tenait en sa main un bulletin. Maître candidat, par le vote alléché, lui tint à peu près ce refrain. Et bonjour, monsieur l'électeur, que vous êtes poli, que vous semblez meilleur. Sans mentir, si votre suffrage se rapporte à vos avantages, vous êtes le sauveur de cet électorat. À ces mots, l'électeur ne se sent plus de joie. Et pour montrer son bel entrain, il ouvre grand sa main, lâche son bulletin. Le candidat sourit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un mandat, sans doute. » L'électeur, honteux et confus, jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. Je ne pourrais plus voir cette fable sans penser à vous.
Ben oui, c'était le but d'ailleurs.
Et c'est vraiment bien ça. D'ailleurs... vous le dites vous-même, Macron a été élu par 2% de 2 sur 10 des électeurs. D'abord, plus personne ne vote.
C'est un coup d'état médiatique qui s'est passé complètement.
Et plus personne ne vote. Le système est très discrédité.
Oui, et c'est peut-être, à mon avis, volontairement organisé comme ça.
Comme ça, on n'a plus à s'occuper du peuple.
Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec l'abstention, on a des politiciens qui aujourd'hui surfent là-dessus, avec virtuosité, parce que quand vous avez regardé l'automne dernier, il y avait une partielle à Évry, une législative partielle. Oui. C'est un député En Marche qui a été élu avec 0,1% des électeurs. Oui. C'est un scandale, scandale absolu. Ça a fait hurler Philippe Pascaud, qui avait activement milité avec le candidat de l'Union populaire républicaine, qui était M. Yavar Sakalroudi. Il y avait eu une campagne, ils avaient essayé, mais on était sur la précarée de la maison d'assaut. Il y avait 5 maires locaux qui ont fait un lobbying énorme pour le candidat En Marche. Et donc, du coup, c'est le candidat En Marche qui est passé. Mais encore une fois, voilà, il y a du lobbying, il y a la pluralité, c'est un scandale.
Un pouvoir législatif fondé sur 0,1.
Ça n'a pas de légitimité. C'est légal, mais ce n'est pas légitime. Ils ne sont pas représentés.
Oui, mais ça, vous parlez d'or.
Voilà. Oui, non, mais je vais prêcher des convaincus.
Vous faites la différence entre le légal et le légitime.
Oui.
Nous n'avons plus le...
Mais c'est pour ça que le sens des mots...
Ils n'ont plus la légitimité. Voilà. Et ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas diriger sans légitimité.
Mais je crois justement, et c'est là encore une fois le sens des mots. Je dis au début, je cite un Confucius. Hein. Bon, alors est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est pas lui? Je ne sais pas. Enfin, ça lui est attribué. Si les mots perdent leur sens, l'homme perd sa liberté. Alors il aurait peut-être fallu définir aussi ce qu'est la liberté, mais ne serait-ce que la liberté de penser, la liberté en toute chose, d'action. Il y a une chose à laquelle on peut peut-être arriver à terme en conclusion, c'est le sens du mot démocratie. La démocratie reste un pari. Parce que la démocratie, c'est la liberté de choix de chacun qui s'exprime, et puis on va définir des règles communes. Ça va marcher s'il y a une majorité de nos concitoyens qui défendent des valeurs qui sont appuyées sur la vertu. Si on a une majorité qui s'appuie sur le vice, on aboutira de toute façon au chaos. On aboutira à quelque chose d'harmonieux que si on arrive à avoir un maximum et une majorité de gens qui sont appuyés sur la vertu. Et ça ne demande pas grand-chose, c'est de l'altruisme tout simplement. Or, on est dans une politique actuellement menée par des économistes et des financiers, des banquiers, qui sont non pas sur des valeurs altruistes, mais sur des valeurs égoïstes, sur des valeurs de profit.
Mais l'altruisme, monsieur, on va vous dire, nous sommes altruistes, nous nous occupons de l'Afrique, du Maghreb.
Oui, et toutes ces grandes sociétés financières ont leur fondation, mais ils les ont, pourquoi? Parce qu'il y a des aménagements fiscaux qui font qu'ils en récupèrent la moitié. Ça, c'est un truc qui m'a toujours effaré, de voir des associations à qui on envoie des reçus fiscaux, parce qu'ils vont pouvoir en déduire la moitié. Mais je suis désolé, moi, je n'ai jamais demandé ces reçus parce que je ne fais pas financer ma charité par l'État. C'est invraisemblable.
Alors, ça repose sur l'utilité publique, la
Oui.
notion d'utilité publique. Alors,
Mais le bien
je
commun.
défends, cette structure là, parce que nous en vivons. Hein, nos donateurs reçoivent des déductions d'impôts quand ils nous envoient de l'argent.
Voilà.
Mais je pense que, et j'en suis même sûre, que notre télévision est d'utilité publique, ne serait-ce que parce que elle donne un son de cloche un peu différent des grands médias. Mais vous avez raison, il y a des tas d'associations, enfin c'est vrai qu'il y a des tas d'associations qui sont subventionnées, c'est tout à fait de façon anormale.
Bah, des associations, des ONG,
L'Église a
l'Église,
fonctionné pendant des siècles avec des
avec la
dons,
quête,
il n'y a jamais eu
voilà.
de déduction d'impôts.
Exactement, exactement. Et quand je vois aujourd'hui, alors ça me choque un tout petit peu, mais quand je reçois par la poste des courriers pour le denier du culte, avec le truc, avec le reçu fiscal, je me dis, mais attendez, c'est quoi cet évangile-là? Je ne le connais pas. Hein. Je suis désolé, mais on est très très loin de la parole, là. Hein. Donc, si vous voulez, bon, que des organismes, bon, effectivement, des télévisions. En fait, je crois que au niveau des médias, j'aime bien l'idée que défend Étienne Chouard de céder les médias à leurs journalistes. Alors, je dirais, bon, pour TVL, c'est votre un peu votre bébé, c'est vous qui êtes tous plus ou moins bénévoles là-dedans,
Oui.
même si il y a peut-être quelques mécènes qui vous appuient, mais je dirais, voilà. Mais ce qui fait que vous marchez, c'est parce que vous avez des gens qui vous suivent et qui sont prêts à payer pour ça a
Absolument.
un coût.
Ah oui, non,
Tout
vous
ça
avez
a un coût.
raison.
Je
L'humanité, par
regarde,
exemple, ne marche pas
voilà, même
avec ses lecteurs, ça c'est
si on
sûr,
regarde le
oui.
studio, juste le matériel, il y en a pour je ne sais pas combien,
Oui,
c'est pas.
nous avons des
Voilà, et
amis.
heureusement.
Non, non.
Et je me
Ce qui
dis
n'est pas le
que
cas, en effet, d'un certain nombre de journaux qui crèveraient
ben, quand on voit des
s'il n'y avait pas
journaux
les
comme Le
subventions.
Parisien, Le Monde, Le Figaro, qui reçoivent des millions de l'État qui sont de l'argent, c'est notre argent, je suis désolé, mais ça me fatigue un tout petit peu. Si, et qui ne respectent pas, ne serait-ce que la charte de Munich. Ça, c'est quand
Qui
même.
est la
La
Charte de
charte de
Munich?
Munich est la charte qui définit l'éthique du journalisme.
Ouais.
Et ça, j'avais trouvé ça très drôle.
Et qu'est-ce
Il y
qu'elle dit,
avait
cette
eu.
charte du
Alors, ça a
journaliste?
été défini par des journalistes en 1971 à Munich. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais
Oui.
qui définit là, bon, des nouvelles qui doivent être vérifiées, la pluralité de l'information, la vérification. Et j'avais trouvé très, très drôle. C'était pendant la campagne présidentielle. Il y avait eu une conférence de presse de M. Asselineau qui avait piégé une journaliste de France Inter, qui est quand même censée, elle sortait de l'école du journalisme quand même.
Oui.
Il devrait connaître ça. Et elle a dit, la charte de quoi? La charte de Munich, madame, la charte de l'éthique du journalisme. Il dit, paf! Ça, j'avais trouvé que c'était quand même. Bon. Donc, voilà, le respect
Mais
du
déjà, monsieur,
lecteur et de l'information.
éthique quoi?
Oui, voilà,
Ils ont entendu parler d'érotique, ils ont
Oui,
parlé
voilà, c'est ça.
d'éthique.
C'est le lapsus de
C'est
Najat
un mot
Vallaud-Belkacem
difficile.
sur l'inflation qui devient une fellation dans la bouche de Madame Belkacem. Non, c'est. Mais. Voilà. Dati. Ah, Rachida Dati, pardon, excusez-moi. Oui, Rachida Dati. Et ça, voilà. Mais on est dans. Vous savez, on est aujourd'hui, quand j'écoute les politiciens, on est dans 1984
Merci,
d'Orwell.
merci à Pierre Bergerot qui est à côté de nous et qui vous donne
Voilà. Qui me rappelle,
l'information,
voilà.
parce que lui, c'est un vrai journaliste.
Quand je vois le langage, comment est-ce qu'il est retourné, quand on entend Madame. C'est pas Belloubet, je ne sais plus qui dit que, bon, faciliter les licenciements, c'est pour aider l'emploi. On est dans 1984 d'Orwell, hein.
Oui,
Complètement. C'est
il
la
est.
guerre, c'est la paix,
Oui.
l'ignorance, c'est la force, ou quelque
Oui.
chose du genre.
Le mensonge, c'est la vérité.
Voilà. Et ils en ont. Il y a quelqu'un l'autre jour qui a sorti, il aurait fallu que je les note, parce qu'il a sorti cinq mes phrases qui sont dites aujourd'hui par des politiciens réels. Et qui nous inverse des trucs. C'est complètement effarant. Le coup du ruissellement, c'est un mensonge absolu. Et ça a été expliqué par plusieurs personnes. Moi,
Le
j'ai entendu.
ruissellement, alors
Ben, c'est-à-dire, c'est de donner, faciliter.
C'était Macron.
Enlever. C'est Macron et. Non, c'est peut-être pas Macron qui l'avait fait, mais enfin, c'était dans son discours de toute façon.
Oui.
Mais qui expliquait que si on facilitait la vie des hyper riches, ça allait redescendre, parce qu'à un moment donné, ils allaient investir
Alors,
là-dedans.
je vais vous dire, c'est un proverbe normand. Voisin d'homme riche n'est jamais pauvre. Mais dans une structure, j'ai envie de dire aristocratique.
Et ça dépend quel niveau de richesse.
Parce que dans un village, s'il y a en effet un homme suffisamment vertueux, comme au sens où vous, au sens que vous, que vous donnez à la vertu, est suffisamment fortuné, en effet, il va faire travailler tout le monde autour.
Alors, oui, ça dépend du niveau de richesse. Oui. Mais là, on est arrivé aujourd'hui à des niveaux de fortune absolument invraisemblables
et peut-être tellement indécents. Avec le local.
Et c'est vrai qu'ils font travailler localement parce qu'ils ont 5-6 villas, un yacht, un jet privé. Alors, il faut le personnel de maison, il faut les pilotes pour l'avion, il faut le personnel dans un yacht. Et puis, quand c'est. Je crois que c'est le PDG de Oracle qui a un yacht qui fait 170 mètres, ça prend du personnel là-dedans. Je ne sais pas combien ils sont, mais il y a certainement au minimum une trentaine ou quarantaine de personnes pour faire marcher le bateau. Alors évidemment, ils font marcher ça. Mais vu leur niveau de fortune, ils en ont encore bien largement. Ils font quoi avec ? Ben, ils le réinvestissent. Et ils le réinvestissent dans quoi ? Dans la spéculation. Et ça, pour moi, c'est un scandale
et
absolu.
Et ça, ça ne fait pas du tout vivre...
Personne. Ça les fait vivre, ça leur permet d'être plus riches encore.
Absolument.
Parce que c'est des paris boursiers, mais en général, bon, ils perdent pas vraiment d'argent là-dessus. Mm-hmm. Mais il y a une captation qui le ruissellement, il est partiel et il est voleur surtout.
Oui. Alors revenons à cette idée d'agora. Vous voulez que on revienne à l'agora. Redites-nous ce que c'était que l'agora.
Alors l'agora, c'est le citoyen qui, grosso modo, bon, en démocratie, donc le démos qui prend le pouvoir, qui a le kratos, c'est le citoyen qui légifère. Comme le dit très bien Étienne Chouard, aujourd'hui, personne ne vote. On ne vote pas, on élit. Ce que faisant, on délègue son vote à l'élu, qui lui vote les lois. Et le problème, c'est comme en plus en France, on n'a pas le droit d'avoir de mandat impératif, il a fait des promesses, on l'a élu sur ses promesses et il peut faire autre chose.
Et le corbeau le voit, et le renard.
C'est exactement ça.
Mais vous savez que je suis allée au Parlement européen la semaine dernière et j'ai vu que les députés n'avaient strictement aucun pouvoir.
Mais l'Assemblée européenne n'est qu'un Parlement croupion puisque toutes les initiatives viennent de la Commission européenne.
Exactement. Ils ne proposent aucune loi.
Mais ils ne peuvent pas, puisque ils n'ont pas l'initiative.
C'est des lampions.
Ça. Et ça vient de la Commission et des lobbies. Ouais. Et quand on sait qu'après Washington, Bruxelles est la deuxième place au monde où il y a du lobbying, ouais. Alors il y a des chiffres que j'ai déjà entendus, il y en aurait entre 10 et 30 000 des lobbyistes là sur place, ce qui est totalement invraisemblable et d'une immoralité la plus...
Et puis les révélations du livre de Philippe de Villiers sur... la biographie de Jean Monnet, qui est payée par...
Payée par la CIA. Mais quand on voit justement l'histoire de ça par De Villiers, qui est racontée très bien, d'ailleurs il écrit bien, M. De Villiers, j'aime bien, ce que expose dans une de ses conférences M. Asselineau sur les origines de l'Union européenne est excellente aussi. Même s'il y a une espèce de tempête dans un verre d'eau avec une journaliste qui s'appelle Aude Favre, qui a essayé de faire de dénigrement sur l'histoire, l'origine nazie de M. Walter Hallstein, qui était un juriste nazi qui a enseigné le national-socialisme à DSS et qui était le premier président de la Commission européenne. Enfin,
À mon avis, c'est presque ça le plus...
Voilà,
enfin, compte tenu des oukases contemporains, on a l'impression que c'est presque plus scandaleux.
Ce que je trouve grave, en fait, dans la manœuvre de Mme
Favre... L'un vendu aux Américains, l'autre à Hitler.
C'est qu'en fait, et c'est très récurrent dans notre presse, dans nos médias de propagande, j'appelle même plus ça de la presse, c'est qu'ils n'ont pas de réponse politique, donc ils s'attaquent aux messagers. Ils ne peuvent pas attaquer le message.
Ah oui, c'est très juste, ça, oui.
Oui, vous n'avez pas de réponse contre le message, vous attaquez. Vous savez, c'est le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Oui,
c'est ce qu'ils font. Ils regardent et ils critiquent le doigt.
Dans la mythologie grecque, Cassandre est toujours discréditée, parce que Cassandre montre la réalité.
Voilà.
Elle prévoit l'avenir.
J'avais beaucoup aimé un bouquin qui a été écrit, qui a été coécrit par Natacha Polony et monsieur Quatremer. Qui s'appelait, j'ai oublié le titre, mais j'étais à la librairie, vous avez fait une dédicace et elle m'avait écrit en dédicace pour que Cassandre soit enfin entendue, quelque chose comme ça. De fait, on a un certain nombre de Cassandres dans ce pays. On a des Chouards, on a des Asselineaux.
On a beaucoup de Cassandres. Le problème, c'est que c'est la d'abord, masse, la, les trois, les la force, quatre cinquièmes des gens ne savent plus qui est Cassandre.
Voilà. Mais à la limite, bon, c'est pas dramatique. Mais ça rejoint une question qui est en arrière-plan de tout ça. La démocratie ne se fera et ne pourra vraiment se faire que si on réinstruit les gens. Et il y a un travail de destruction du système scolaire en France depuis 40 ans. Qui est absolument navrant, pour ne pas dire affligeant, parce que vous avez des jeunes gens qui aujourd'hui arrivent au bac sans savoir écrire correctement en français. C'est... Moi, je me dis qu'on devrait avoir une école primaire où on reste aux fondamentaux, qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, et qu'ils sortent de là, rentrent en sixième avec un peu plus de 200 mots de vocabulaire. Mmh. Pourquoi ? Parce que derrière chaque mot, il y a un concept qui est très précis. On a le privilège, c'est quand même invraisemblable, on a le privilège d'avoir la langue française, qui est une des langues extrêmement riches, qui permet d'avoir, d'exprimer les nuances les plus subtiles. Quand on veut dire quelque chose, c'est pas par hasard si le français était la langue diplomatique internationale jusque dans les années 70-80, qui est balayée progressivement par l'anglais. Mais le français reste la langue la plus riche. Et pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui cette novlangue ? Le dictionnaire, dans 1984 d'Orwell, le dictionnaire novlangue est le seul dictionnaire au monde où on retire des mots pour essayer de simplifier. Oui, mais derrière toute mauvaise action, il y a quelque chose pour simplifier, pour aider, on vous met un peu de positif, c'est ça le truc. Hein.
La vaseline.
Oui, c'est un peu ça. Mais, oui, mais
la vaseline pour faire passer le...
Mais regardez, vous prenez les bus de la RATP. Moi, j'ai vu ça à un moment donné, j'ai dit, vous avez une petite étiquette à côté de la porte. Il y a 10 ans, il y aurait écrit, attention, ce véhicule est équipé d'un équipement, de matériel de vidéosurveillance. Ouais. Puis ils sont aperçus d'un truc, le mot surveillance a quelque chose d'intrusif, les gens l'acceptent mal. Donc on a changé le mot, on a dit ce véhicule, et vous regarderez, ce véhicule est équipé d'un matériel de vidéoprotection. Alors si vous dites que vous êtes contre la surveillance, on ne peut pas vraiment vous blâmer. Mais si vous dites, je ne veux pas de ça, quoi, vous êtes contre la protection, mais vous êtes un salaud. Mais c'est fait exprès, parce que là, on vous empêche de penser le mot.
Mais oui.
On vous enlève le mot surveillance, donc vous ne pouvez plus penser l'intrusion, vous ne pouvez plus penser le concept même.
Oui, absolument, vous avez raison.
Et tout est fait à l'avenant.
Oui. Le corpus enseigné est tout à fait monstrueux, puisqu'on apprend que la France est née avec la République, on ignore...
Elle n'est pas née avec la République, elle est née avec le baptême de Clovis.
Les 17 premiers siècles, ou en tout cas...
Oui, on efface tout ça.
On efface tout.
Mais on est encore une fois dans 1984, où il y a les équipes et le personnage de l'histoire qui réécrit au fur et à mesure que des besoins du pouvoir en place, on réécrit les histoires, on réécrit les anciens journaux, on réécrit...
Donc l'électeur est déjà handicapé. C'est un handicapé.
Oui, et c'est pour ça que... Alors c'est pour ça que je dirais, d'une certaine manière, c'est quand même rassurant. On entend quand même que malgré tout, il y a une... une désaffection de la presse traditionnelle au profit un peu d'Internet, au profit de réseaux circuits alternatifs. Parce que justement, il y a une méfiance qui est en train de se réveiller. Le mouvement des Gilets jaunes est un bol d'oxygène de ce côté-là, parce que là... Ça s'est accumulé, c'est une colère qui s'est accumulée pendant 40 ans.
Mais quand vous parlez d'agora, est-ce que cette agora est valable pour un village, une petite ville ou même une grande ville ? Mais est-ce qu'il est valable à l'échelle nationale ?
Alors, je suis tenté de dire oui, même si ça ne va pas nécessairement être facile. L'idée est quoi ? C'est que l'idée, c'est le citoyen qui légifère. Qui décide ses lois, ce qui s'approche énormément du RIC, ce que les Gilets jaunes appellent le RIC Carl pour constituant, abrogatoire, révocatoire et législatif. C'est-à-dire c'est le citoyen qui fait la loi. On ne peut pas faire une agora de 45 ou 50 millions de personnes. C'est matériellement invraisemblable et pas possible, c'est pas gérable. Mais on peut le subdiviser au niveau local. N'importe quel village de campagne a une salle des fêtes qui peut servir d'agora. On peut éventuellement même envisager d'utiliser des moyens techniques actuels. On a l'Internet qui peut faire des choses très bien. Et puis la mairie met à disposition des endroits pour les personnes qui ne sont ou pas équipées ou pas familières avec l'utilisation d'Internet et qui puissent, au niveau des structures plus grosses, des villes moyennes ou des plus grosses villes comme Paris ou Lyon ou Bordeaux, on peut subdiviser par arrondissement ou par quartier de façon à avoir une structure d'agora qui soit locale. Et après, je serais tenté de changer... le rôle du député pour avoir, si vous voulez, quelqu'un qui va faire la coordination. Ce qui permet d'avoir une législation, même locale, le maire s'appuierait là-dessus. Je redonne par là à l'exécutif son véritable rôle. Il exécute, il ne décide pas. Il n'est plus, à la limite, même plus élu. On le nomme, c'est des administratifs. Ils sont là pour gérer le bien public, gérer nos structures communes. On ne leur demande pas de faire la loi. On fait, nous, parce que...
Vous leur retirez le pouvoir.
Je leur retire le pouvoir.
Carrément, ouais, oui. Non, vous êtes très efficace, je trouve.
Ben, c'est-à-dire que, encore une fois, je décris aussi à un moment donné ce qu'est l'essence même de la loi. Dans une communauté, si tout le monde s'entend bien, si on n'aura pas de loi. Si on s'entend bien, que tout marche bien, on partage ensemble, il y en a un qui a un problème, alors c'est un peu utopique, mais je rêve d'un monde où les forts vont assister les faibles, les instruits vont enseigner aux moins savants. Si vous voulez, j'aime pas non plus l'expression parce qu'elle est employée aujourd'hui de façon un peu gnangnan, mais c'est le vivre ensemble, communautairement, dans l'altruisme. Et dans l'altruisme, on va avoir beaucoup plus de bénéfices, même personnellement.
Mais où est-ce que vous pêchez cet altruisme ? Dans la religion chrétienne ?
Non, oui, enfin oui, d'une certaine manière. Moi, j'ai eu une enfance dans une famille catholique. Mes parents sont des catholiques, pratiquants. Je ne pratique plus pour ma part parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le discours des curés a tendance des fois à m'exaspérer. Et puis je les trouve un peu déconnectés. Puis je trouve qu'il y a trop de rituels là-dedans. Il y a moins d'enseignements. Ils sont très loin du fonctionnement de ce que faisait le Christ. Le Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enseigné, il a montré l'exemple. Il ne faisait pas des rituels et des salamalecs, il enseignait. Il faisait des paraboles. Mais j'attendrais qu'il fasse des paraboles adaptées au jour actuel.
Mais c'est ça le prêche, c'est la leçon.
Oui, et c'est de quelquefois réduit à la portion congrue. Vous allez avoir une homélie qui va durer 3-4 minutes, et puis après on repart sur les rituels. Mais il y a eu quoi comme enseignement là-dedans ?
Changer de paroisse jusqu'à ce que vous trouviez un
Oui,
vrai,
mais alors il va falloir que je fasse le tour.
Mais
là, si vous voulez, que dans ces racines-là, moi je me rappelle quand même le curé de mon enfance avec qui j'allais au catéchisme, etc. Et puis la vie familiale aussi.
Bien sûr,
la culture familiale,
toujours le modèle,
et la fratrie, si vous voulez. Donc, bon, j'ai appris, moi, toutes ces valeurs-là.
Oui, c'est-à-dire que vous, avec huit
frères et sœurs, voilà,
vous apprenez de facto l'altruisme. Hein,
parce oui,
on peut pas
c'est
vivre
nécessaire.
Avec huit frères et sœurs sans esprit d'altruisme. Le problème, c'est que maintenant, les familles sont
Sont exposées. Un enfant, deux enfants, quand il y a des enfants.
Quand il y a deux enfants, c'est
Et quand
ce n'est
pas des familles recomposées.
Oui.
Parce que bon, et c'est, là encore, le système actuel a déstructuré. Et ça a commencé avec la Révolution, à déstructurer ce qui est le cœur même d'une nation, c'est la cellule familiale.
Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils attaquent la famille. Oui.
Mais bien sûr, parce que si vous détruisez la famille, vous détruisez la nation. Oui. Et pourquoi est-ce que... On a dit que bon, la Révolution, ça a essayé de détruire l'Église, et c'était la famille qui était visée derrière. Oui. Parce que la cellule... Quand vous aviez autrefois 80-90% de la population qui était rurale, mais vous aviez 3 ou 4 générations dans la même maison.
Oui.
Aujourd'hui... le gamin qui a 16 ans, 17 ans, il va travailler et puis ça y est, il quitte la famille.
Et qui sait qu'il ira. On a mis les vieux dans des Cayennes à vieux. Comme
voilà.
Dire.
Et puis on ne transmet plus. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on ne transmet plus. Pour moi, une des choses les plus importantes, ça va être la transmission. C'est de transmettre aux générations futures. Vous pouvez bâtir tout ce que vous voulez, mais si c'est pour devenir le plus riche du cimetière, ça me paraît un petit peu limité comme intérêt.
Repartons de la ville et du village. Le problème, c'est qu'on fait le contraire. On retire tout pouvoir
oui.
à la commune pour l'instant.
Bien sûr. Mais ils sont en train de faire des... Alors, ça a été très bien expliqué par Asselineau. Et j'avais été interviewé par le Huffington Post. Il y a une vidéo qui est disponible sur leur site, qui dure 2-3 minutes. Ce que fait l'Union européenne, c'est qu'en fait, ils veulent restructurer pour reformer les structures administratives. On est parti de la Révolution, les régions ont sauté pour faire sauter les féodalités. Vous aviez l'État, le département, la commune. Les régions ont été remises en place par Pétain.
Oui.
Puis est arrivée la communauté européenne, communauté économique européenne, qui est devenue l'Union européenne, par-dessus l'État. Donc on se retrouve avec des gens, on avait 3 niveaux, on revient avec 4 avec les régions, puis un 5e par-dessus l'État qui est l'Union européenne. Puis aujourd'hui, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils font des fusions de communes pour nous faire des espèces de comtés et pour...
collectifs.
Des collectifs, voilà.
Et qui dit collectif ?
Pour essayer de centraliser un peu l'administratif et en fait retirer aux communes elles-mêmes toutes leurs prérogatives. Et petit à petit, on fait sauter les communes, on fera sauter les départements, et à terme, on fera sauter l'État. Ce qui me laisse à penser que si on a des personnages comme Macron, comme Castaner ou Philippe, on pourrait se dire, mais c'est invraisemblable, on parle d'incompétence, mais en fait, j'en viens à me demander, est-ce que ça n'est pas voulu pour décrédibiliser l'essence même de ce qu'est l'État ? Pour à terme arriver à faire admettre à tout un chacun que finalement, les gouvernements nationaux, c'est vraiment n'importe quoi, on va refiler ça à Bruxelles. Et ça avait été dit par Viviane Reding dans une réunion à l'Assemblée, qui avait dit, non mais il faut que les gens se rendent bien compte qu'il n'y a plus de politique nationale. Aujourd'hui, c'est une politique européenne. Ça aussi, on le trouve sur une vidéo sur Internet. C'est... On est dans la destruction de la nation et la destruction de la France en particulier. Alors, je ne me suis pas du tout avancé dans cet ouvrage-là sur l'aspect religieux de la chose. Hein. Ça me paraît, c'est un peu incongru.
Bien sûr, oui, oui.
Mais alors, si on va dans ma pensée à moi personnelle, je ne suis pas loin de penser qu'il y a une destruction de la France en particulier qui était... vendu entre guillemets comme la fille aînée de l'Église.
Oui.
Et ça, c'est une épine dans le pied du malin qui a besoin justement de la dégager du terrain parce que c'est un exemple aussi. La France était une espèce de phare de ce côté-là.
Moi, je pense que le combat, il est spirituel.
À mon avis, oui, oui, parce que
on arrive d'ailleurs. On le voit bien, l'islam est favorisé, promu, il ne faut surtout pas y toucher,
oui.
Alors que l'Église catholique fait l'objet d'accusations quotidiennes.
Oui.
Quotidiennes.
Oui. Non, mais si
en
vous
ce
avez,
moment, on entend
vous avez des,
Barbarin, l'histoire de Barbarin arrêt remis sur la sellette. Alors
où on n'entend pas parler des vandalismes et des profanations qui a lieu tous les jours dans des églises de France. Ça, vous n'entendez pas parler. La moindre croix gammée sur une boîte aux lettres à côté de la tête de Simone Veil sur les boîtes aux lettres qu'il y avait sur la façade de la mairie du 13e. Ah, ça, mon Dieu, ça, c'est, tout le monde en parle, ça fait le buzz.
Oui, oui.
Mais vous avez,
ou l'oreille de cochon devant la mosquée.
Voilà, c'est ça. Alors ça, tout le monde en parle. Mais dès qu'il y a une profanation d'un cimetière chrétien, d'une église où ils ont cassé des statues... Il y en a un qui a décapité une vierge, je ne sais plus dans quelle église. Il y a pas.
C'est systématique, il décapite les statues, ce qui est quand même bien signé.
Voilà.
Mais derrière cette affaire de Barbarin, j'y reviens parce que c'est extrêmement symptomatique, c'est que en fait, il refuse la confession. La confession étant un acte secret, le secret de la confession interdit à qui que ce soit de dénoncer à la justice humaine.
Oui.
Et donc. Et c'est ça qu'ils veulent faire tomber. Et c'est ce principe-là qu'ils veulent faire tomber.
Oui. D'abord,
cette justice humaine n'est pas très florissante aujourd'hui, puisque on le voit bien, il y a un certain nombre de coupables qui sont remis en liberté et d'innocents qui sont cagés. Elle est d'une partialité monstrueuse. Enfin, notre justice.
Et d'une grande violence aussi.
D'une grande violence. Enfin, c'est effrayant. Là, on a condamné. Deux gamins et un type de 30 ans, un apiculteur, parce qu'ils étaient à la manifestation. Ils sont condamnés à la prison avec sursis, mais tout de même condamnés avec à la prison.
Oui.
On n'a pas arrêté un seul black bloc.
C'est ça.
Donc on a envie de dire.
Non, on est dans l'inversion de valeur.
Votre système juridique a besoin d'un léger. Légère rénovation.
Oui, c'est même plus de la rénovation. Là. On rase et on rebâtit, parce que bon, on ne va pas bâtir sur ces bases-là.
Et on rase le syndicat de la magistrature et son mur des cons.
Oui, mais et c'est pour ça qu'il faut que le citoyen reprenne en main sa propre destinée. Parce qu'on a développé avec les années. Les Trente Glorieuses ont eu des effets tout à fait bénéfiques pour beaucoup de monde, et ils ont eu un effet pervers, c'est qu'ils ont développé le confort et la paresse. Et on a négligé de surveiller nos instances, nos institutions. Et bien entendu, des voyous se sont engouffrés dans la brèche. Mais c'est pour ça que je dis que l'agora, c'est responsabiliser chacun. J'aime bien ce que dit, vous savez, parce qu'on va m'opposer les objections. Oui, non, mais les gens ne sont pas compétents. Ça, j'y crois pas. Et j'aime bien ce que dit...
D'ailleurs, on le voit. Vous avez vu les interviews des Gilets jaunes.
Et c'est très étonnant.
D'abord, c'est la France profonde
qui
revient à la surface.
Oui, et puis une France qui est loin d'être conne.
Si je peux me permettre cette forme. Une France qui est loin d'être conne.
Oui.
On voit des petites vieilles qui balancent des trucs d'une rigueur fantastique.
Et ça pique là où ça fait mal. Hein. Mais j'aime bien ce que dit, il y a Franck Lepage qui explique une chose extrêmement bien et qu'on peut appliquer à ça aussi. Franck Lepage, dans ses conférences gesticulées, explique qu'après la guerre, on avait un pays qui avait quand même été dévasté par
les Allemands, mais aussi quelques bombardements américains, faut pas
se cacher. Et par les Américains, oui,
hein, voilà. Bon, et les forces vives, il y en a quand même pas mal qui étaient restées dans les tranchées, hein, avec 2 mètres de terre sur l'estomac, donc là, il fallait rebâtir. Et il y avait un cruel manque de main-d'œuvre. Et des main-d'œuvre qualifiées. Donc les entreprises embauchaient avec des gens qui étaient pas assez qualifiés. Et trouver du boulot, vous en trouviez d'un claquement de doigts. Hein. Oui. On vous embauchait, vous étiez pas... Mais on allait vous former sur le tas. Et il y avait une espèce de fierté des gens qui s'efforçaient, qui apprenaient. Et qui ne demandent que ça, finalement, parce qu'ils allaient pouvoir avoir une promotion à un moment donné, et puis ils allaient grimper dans le truc. Et tout le monde gagnait. Et l'entreprise avait un problème quand même malgré tout, c'est qu'il manquait malgré tout de main-d'œuvre. Donc ils se sont orientés vers la restructuration de l'enseignement pour former des gens qui soient plus qualifiés. Et il y a eu un croisement, c'est-à-dire que la population a repris une certaine croissance, l'enseignement a... Et il y a eu un croisement où il y a eu plus de main-d'œuvre qualifiée que de postes. Et là, ça a commencé à dégringoler, parce qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui a besoin d'une secrétaire, et j'aime bien l'image que prend Lepage, c'est qu'il dit, bon, vous avez 3 secrétaires qui se présentent pour un poste. Il y en a une, elle est secrétaire trilingue. Elle va baisser ses prétentions sévèrement parce qu'elle a besoin du poste, elle a un loyer à payer, elle a des enfants, etc. La deuxième, elle est bilingue. Elle va baisser un peu ses prétentions aussi. Puis la troisième, elle est monolingue, et puis elle va laisser ses prétentions là où elles sont. Et puis le patron, qu'est-ce qu'il va faire pour le même prix? Il va embaucher la meilleure, hein, donc il va aller chercher la trilingue, qui va se servir que d'une seule langue pour coller les timbres. Et les deux autres, elles vont rester au chômage, et c'est une catastrophe. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que justement, si je reviens sur la partie avant, la partie après-guerre, où on embauchait des gens au-dessus de leur qualification, l'agora, c'est un peu la même chose. C'est qu'on va demander un petit peu plus aux gens, mais on va leur demander de prendre leurs responsabilités. La loi, c'est les lois que vous voulez vous appliquer. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une petite communauté où tout le monde s'entend bien, on n'a pas besoin de loi. L'essence même de ce qu'est la loi, on va faire des lois s'il y a un problème parce qu'il va falloir protéger tout le monde. Le premier sens de la loi, c'est de protéger la société, protéger le citoyen. Ce n'est pas de restreindre, d'interdire, d'obliger. Non, ce n'est pas ça la loi. Au départ, fondamentalement, c'est de protéger. Et donc, le citoyen, soucieux de son prochain, je dirais, hein, de son voisin, parce qu'il faut bien comprendre que si votre voisin a un problème, ça va tôt ou tard vous retomber sur le nez à vous, parce qu'il va falloir, lui, il va avoir besoin de quelque chose qui va tôt ou tard vous revenir, de façon quelquefois très indirecte.
Hein. Il y avait un proverbe latin dans les petites pages roses du Larousse, « Odie mihi cras tibi », ce qu'on t'a fait, c'est ce qu'on te fait à toi aujourd'hui, on me le fera à moi demain.
Oui.
Je cite ce proverbe latin, non pas pour écraser de mon latin, mais pour dire que c'est une sagesse qui vient du fond des âges. C'est ça que je veux dire.
Mais il y a des choses.
Vous parlez d'agora, oui. Donc des Grecs. Oui. Les Latins ont suivi. Bien sûr. Tout ça, c'est.
Vous savez, il y a des détails dans les mentalités. C'est des petits comportements. Chacun, je dirais, devrait prendre conscience de ça. Quand vous vous baladez, vous avez un paquet de cigarettes tout neuf, vous enlevez le plastique. Au lieu de le jeter par terre, ça coûte quoi de marcher 10 mètres de plus parce qu'il y a une poubelle et de le mettre dans la poubelle? Vous rentrez dans un centre commercial, vous poussez la porte, ça coûte quoi de jeter un petit coup d'œil en arrière avant de lâcher la porte, voir s'il n'y a pas quelqu'un, une petite dame ou une personne un peu handicapée qui... et tenir la porte 30 secondes? Ça coûte rien, c'est des petites choses comme ça. Au lieu de se bagarrer, d'être toujours courir après quoi? Parce qu'on est aujourd'hui, c'est ça, c'est la start-up nation de Macron, où tout le monde doit aller vite et il y a des délais et puis ça doit arriver de temps en temps. Mais non, pour faire quoi? De l'argent? Mais c'est quoi l'argent? Et là encore, on a un autre problème, parce qu'on a insinué dans l'esprit de beaucoup que l'argent était une valeur en soi, l'argent ne vaut rien. On n'échange pas de l'argent, on échange des choses. Je sais pas. Et moi, j'avais découvert ça avec une association qui est au Québec. Moi, j'ai vécu au Québec entre 91 et 2003. Et j'avais rencontré là-bas une association qui s'appelle les Pèlerins de Saint-Michel. Alors, qui prône un salaire à vie, etc. Donc, j'étais pas nécessairement d'accord avec eux, mais enfin, qui expliquait la monnaie. Et qui expliquait très bien la chose. Alors après, la suite de leur discours, je le trouvais plus discutable. Et j'ai surtout jamais pu obtenir des réponses à leur système. J'ai posé des questions. J'ai dit, il y a un truc qui cloche. Et moi, j'aimerais que vous m'expliquiez. J'ai besoin de comprendre. Je me dis, un système, tout le monde doit le comprendre.
s'il est né compris que par des experts, on ouvre la porte à la tromperie. Et les gens vont quand vous écoutez les économistes sur BFM Business et autres télévisions d'information continue, et on vous fait inviter des experts, le citoyen lambda, il décroche dans les deux minutes. Mmh. Parce que c'est très compliqué, c'est tortueux. Il y a des discours que le citoyen moyen ne peut pas comprendre. Donc il décroche. Et il dit, bah, écoutez, oui, vous citez très bien vos histoires, mais moi, écoutez, il y a des experts, je leur laisse le truc. Et ils n'attendent que ça, bien entendu. Ils veulent qu'on leur laisse les manettes. Parce que comme ça, ils peuvent faire des choses que les gens ne comprennent pas.
Non, en plus de ça, l'expert est manipulé lui-même.
Oui.
Il y a des experts pour une théorie et un autre expert qui dira le contraire.
Ce que je trouve plus grave, c'est qu'on développe la résignation chez le citoyen.
Oui.
Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que, bon, ah ouais, mais ils ont dit, moi, j'y connais rien, je peux pas développer. Et ça, il faut revenir à ça. Moi, je dis, le fonctionnement de la monnaie devrait pouvoir être compris par n'importe quel citoyen, au moins dans ses bases. Après, qu'il y ait des technicalités, que ce soit des experts, mais on a des gens, si des économistes, des gens qui travaillent au ministère, par exemple à Bercy, on a des gens qui sont quand même pas tout à fait des bleus, qui ont fait des formations, des HEC, des trucs comme ça, qui savent compter. S'ils employaient leur génie, au lieu de piller le pays, à mettre les mécanismes qui fassent que ça marche, mais sur une base fondamentale que tout le monde comprenne. La création monétaire, pour moi, est une prérogative qui doit être exclusive de l'État.
Oui, mais comme vous le dites, la création d'argent a été supprimée.
Elle a été confisquée. Alors, dans la cinquième, ça a commencé avec Pompidou, la loi de 73, Pompidou, Giscard, Rothschild, oui. Puisque Pompidou, comme Macron, sortait de chez Rothschild aussi, d'ailleurs. Hein. Et Giscard ne devait pas en être très éloigné, il me semble. Bien. Mais voilà, c'est la banque qui commençait à grignoter le truc. Mais évidemment, parce qu'ils ont des intérêts à prendre. Mais moi, je trouve ça invraisemblable, parce qu'en fait, la chose qui, moi, me choque...
La banque n'est
pas... C'est quand on me dit... L'argent, oui, mais voilà. Mais ce qui me choque, c'est quand on me dit bah, l'argent, c'est une créance. Mais ça veut dire que, de facto, le prêteur s'approprie la chose.
Mais ça, c'est... Oui, mais ça, c'est typiquement la philosophie de la banque.
Oui, mais si, il faudrait que tout le monde comprenne ça.
Tout paysan français sait qu'on ne dépense pas un argent qu'on n'a pas.
C'est ça.
On se moquait du paysan qui avait son magot sous son oreiller. Mais c'était ce qu'on appelle la sagesse populaire.
Bien sûr.
On ne joue pas avec l'argent. On n'achète pas des trucs quand on n'a pas l'argent.
C'est pour ça que je dis, ça doit impérativement rester une prérogative exclusive de l'État sous contrôle citoyen s'entend. Une chose est créée, l'État crée la monnaie correspondante. Une chose est détruite, on détruit la monnaie correspondante. Il y a un équilibre. Parce que vous allez entendre les discours de certains économistes bon chic, bon genre, qui vont vous dire « Ah, mais vous voulez ressortir la planche à billets, il va y avoir de l'inflation, on va tous mourir, mon pauvre ». Oui, non, mais arrêtez
comme
de nous prendre...
Comme s'il n'y avait pas eu d'inflation avec l'euro.
Mais oui, non, puis alors, c'est même pas ça. C'est que, oui, c'est vrai que si on produit de la monnaie en trop, il va y avoir de l'inflation. C'est une question d'équilibre. Je vais prendre un exemple. Vous avez un verre qui vaut, mettons, 1 euro. L'État émet 1 euro, sinon je ne peux pas acheter le verre. Il faut que l'euro soit en circulation. Si la monnaie n'existe pas... je ne peux pas acheter les choses. Je suis obligé de passer par le troc. Mm-hmm. Alors, cette thèse, si vous voulez, ça part du principe de base du troc financiarisé, hein, qui est contesté par un certain nombre de personnes. Bon, le principe de base, une chose est créée, l'État crée la monnaie. Si l'État crée trop de monnaie, et que je n'ai toujours qu'un seul verre, s'il y a 2 euros en circulation, il y a soit 1 euro qui ne sert à rien, soit je monte le prix pour garder l'équilibre. C'est-à-dire que je n'ai pas plus de monnaie que de choses. Donc s'il crée 2 euros, ben à ce moment-là, mon verre, il va falloir qu'il monte le prix, il le mette à 2 euros. Mais s'il retire 50 centimes au lieu de rajouter 1 euro et qu'il n'y a plus que 50 centimes, je devrais normalement avoir une déflation et le verre passe à 5. C'est une question d'équilibre. L'argent en soi ne vaut rien. Vous prenez 2 billets de 5. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. 2 billets de 5, vous les mettez dans un coffre. Vous attendez 10 ans et vous ouvrez le coffre. Est-ce que vous allez avoir 3 billets de 5? Non, ça ne fait pas de petit. Vous allez avoir 2 bouts de papier moisis, c'est tout ce que vous aurez gagné. dans une banque, vous posez ça et dans 10 ans, vous allez avoir, je ne sais pas, 15, 20, 30 euros, je ne sais pas, comment ils font. Il y a forcément quelqu'un qui a perdu de l'argent quelque part. Hein. C'est mécanique.
Est-ce que vous ne pensez pas que la solution la plus efficace et la plus rapide, c'est de reprendre en possession du pouvoir municipal?
Déjà, bah, c'est pour ça que les municipalités sont actuellement fusionnées en communauté de communes.
Oui.
C'est retirer ce pouvoir-là qui est bien plus important parce que justement dans les mairies...
Est-ce que ce n'est pas le combat
c'est
à mener?
C'est le premier endroit où il faut mener le combat. Moi, je verrais bien des expériences que pourraient mener certains maires de village. Dire, bah, on pourrait faire une agora. Les gens, vous décidez. Au lieu que ce soit le conseil municipal qui décide, bah, ici on va faire un rond-point, ici on va faire un passage piéton, ici on va prendre telle décision municipale, c'est l'agora qui va décider. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi je vais vous dire, bah, attendez, vous voulez faire ça, c'est très bien, mais je n'ai pas le budget pour le faire. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous le citoyen. Moi je suis là que pour exécuter.
Parce que le pouvoir municipal lui-même est sujet à caution.
Mais le pouvoir de qui sur quoi?
Je viens de voir récemment à Solliès-Toucas, un petit village resté dans son jus, accroché à la montagne, magnifique.
Oui.
Et ils ont construit une cantine, alors que des petits toits pointus, accrochés à la montagne, donc parfaitement en accord avec...
Oui, avec l'architecture locale, les styles et
petit village dans lequel il n'y a rien de moderne. Ils ont foutu pas un cube, mais un parallépipède pour la cantine.
Oui.
Un truc hideux que l'on voit partout.
Et ils vont vous dire, mais c'est quand même très fonctionnel. Hein.
Mais c'est très moderne. C'est hallucinant. Oui. Hallucinant. C'est rejeté par la majorité.
Mais ça participe de la destruction de la culture, puisque la culture fait quand même... Ça construit les gens aussi, la culture. Et si vous détruisez ça aussi, vous essayez...
Mais je veux dire, ce qu'on déplore au niveau de l'Assemblée nationale, ça arrive aussi au niveau de la commune. Dès le départ, tout est vérolé. Parce qu'il y a un petit groupe de gens à la mairie ou à Saumur qui décident de transformer une chapelle en bar.
Au-delà de tout ça, si vous voulez, on constate...
Oui, notre dernier propos, cher Jean.
Je me dis, on doit aller au-delà du constat. Bon, des constats, vous en trouvez des kilomètres et des milliers d'heures sur Internet. Il faut qu'on aille au-delà, il faut reconstruire. Parce que si on ne se prépare pas à construire, si on n'y réfléchit pas d'avance, le jour où le système va sauter, et ça, à mon avis, il ne faut pas se faire d'illusions, tôt ou tard, il va sauter. Si on n'est pas prêt, on va faire quoi? Il y a un autre voyou qui va nous le mettre avec un bel emballage, reprendre la place... Nous faire ça bien calmement au début, et il va recommencer, et dans 20 ans, on recommence.
Chers auditeurs, il faut que vous lisiez Jean Molinet, « Peut-on bâtir une démocratie ?» avec une préface de Philippe Pascot, et c'est publié sur un site internet, thebookedition.com. The, book, B2OK, édition, comme le mot en français.
Voilà, en un seul mot, thebookedition.com, et vous cherchez dans essai politique.
Bravo, merci beaucoup. Merci Jean Molinet de nous avoir...
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
De nous avoir éclairé très honoré avec vos solutions extrêmement rigoureuses. C'était l'adjectif. Merci Jean Molinet. Au revoir, chers auditeurs.